Côté santé, avec les sociétés Sounou Assurance, qui au Mali et en Centrafrique ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Sounou Assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'été, les grandes vacances approchent à grands pas. Et malgré la pandémie de Covid-19 qui nous a obligés un temps à limiter nos déplacements, eh bien certains d'entre nous vont voyager pour le plaisir ou pour rendre visite à la famille, rester au pays. Mais si nous avons retrouvé cette liberté de mouvement, nous devons rester vigilants face au coronavirus évidemment, mais aussi face aux pathologies liées au voyage, au changement de climat et de contexte sanitaire et infectieux. Car les voyageurs, quelle que soit leur destination et les conditions du voyage, sont fréquemment victimes de problèmes de santé, des problèmes de transit aux infections des voies aériennes supérieures, des dermatoses aux fièvres inexpliquées. Notre organisme peut avoir du mal à s'adapter à un nouveau climat ou à de nouvelles habitudes. Alors, quelles sont les précautions à prendre avant le départ? Quels vaccins pour quelles destinations? Quels sont les indispensables de la trousse à pharmacie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le professeur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Neuilly et président de l'association de la médecine du voyage. Nous serons également en ligne avec Pendaï Sidibé, vice-présidente de l'association Excision Parlons-en, une association qui lutte contre les mutilations génitales féminines. Et en fin d'émission, eh bien, nous retrouverons la séance d'activité physique anti-sédentarité proposée par le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo. Prévention des risques sanitaires, c'est notre thématique du jour pour vous permettre de voyager dans les meilleures conditions.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez participé à la rédaction d'un bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré aux recommandations sanitaires pour les voyageurs 2020. On va y revenir évidemment. Mais d'abord, la question que tout le monde se pose, est-il prudent de voyager alors que nous sommes encore en pleine pandémie de Covid-19?
Alors, il est évident que cette année, pour les voyages, il y a un certain nombre de limites et de prudence à observer parce que le virus circule toujours et notamment sur certains continents et notamment en Amérique du Sud actuellement. Hein, et donc il faut être prudent.
Éviter certaines destinations justement.
Ben, il va y avoir une liste. Pour l'instant, les frontières sont pas totalement réouvertes et il va y avoir une liste avec l'Europe qui va être édictée de pays dans lesquels on va pouvoir voyager. Et puis, il y a beaucoup de pays qui vont empêcher les gens de voyager. Il y a le Japon, par exemple, qui va refuser les Français pour quelques mois. Donc là, il faut vraiment se renseigner sur le site du ministère des Affaires étrangères, hein, diplomatie.gouv, pour savoir quelles sont les restrictions. On est sur une année très particulière vis-à-vis du coronavirus.
Quel a été l'impact, justement, du Covid-19 sur la prévention des risques sanitaires? Et là, je pense notamment à la fréquentation des centres de vaccination.
Alors en effet, ça a été très impacté puisque les centres de vaccination internationaux en France ont été fermés. Hein. Ils ont été, les personnels de santé ont été mis à disposition d'autres structures. Et donc, pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu de consultation en dehors de choses très urgentes pour des voyageurs professionnels ou des humanitaires. Et donc, l'activité reprend tout doucement, mais assez faiblement. Donc, il y a un impact assez fort et beaucoup de gens n'ont pas pu faire leur vaccin hein, dans le cadre du calendrier de routine, mais également pour la préparation des voyages, on est certainement un peu en retard. Et il faut rappeler aux auditeurs qu'il faut au minimum 15 jours avant le départ pour être immunisé contre la fièvre jaune ou d'autres vaccins. Donc si les gens veulent partir cet été, il faut rapidement prendre rendez-vous dans les centres de vaccination internationaux.
Mais est-ce que c'est problématique, ça, sachant que certains centres pourraient se retrouver du coup saturés si la demande était élevée, la demande en vaccination?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est une vraie question d'organisation parce que si la population se met à se déplacer beaucoup sur l'Afrique avec des besoins de fièvre jaune, ça pourrait être embêtant. Mais actuellement, on constate plutôt une certaine timidité et il y a peu de vols aériens qui ont repris. Donc, on a l'impression que cet été va être très particulier, qu'il y aura quand même un calme dans les centres de vaccination internationaux.
Ah oui, malgré tout, plutôt un calme, alors qu'il y a du retard.
Ah oui. Ah oui, bien sûr. Oui, il y a du retard, mais les gens vont pas voyager de la même façon. Hein. Il faut notamment rappeler pour les migrants, si vraiment ils veulent aller au pays cet été, si les frontières s'ouvrent à partir du 1er juillet, qu'ils soient quand même raisonnables, qu'ils viennent se vacciner s'ils ne sont pas à jour de leur vaccin.
Et notamment de la fièvre jaune, vous l'avez rappelé. Professeur Rapp, nous sommes déjà avec une première auditrice, Jeanne, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Jeanne.
Bonjour Igor.
Alors vous, c'est un voyage en Asie du Sud-Est, au Cambodge pour être précis, qui a mal tourné à cause d'un vaccin, pas obligatoire, mais que vous n'aviez pas fait.
Exactement. En 2015, j'étais en voyage en Asie du Sud-Est, je faisais un grand tour, et c'est au Cambodge que je me suis fait mordre par un chien. Et je n'étais pas vaccinée de la rage, car c'était un vaccin, j'étais étudiante à l'époque, et c'était un vaccin qui était coûteux et pas obligatoire. Donc je n'avais pas pris la peine de faire avant de partir.
Et du coup, vous êtes mordu par un chien, qu'est-ce que vous avez dû faire? Parce qu'au Cambodge, les structures sanitaires, on a bien dit que c'est compliqué.
Oui, j'étais dans le sud du Cambodge, je me suis fait mordre sur la plage par un chien sauvage. Qui m'a mordu au niveau du poignet, au sang. Il y avait des restaurants sur le bord de la plage, donc je me suis dirigée vers un restaurant pour demander de l'aide et demander ce qu'il fallait que je fasse. Et le serveur, qui était un serveur occidental, m'a attrapé le poignet, mis une tranche de citron dessus, versé de l'alcool et m'a dit d'aller immédiatement, de me rendre immédiatement dans un dispensaire pour recevoir ma première injection antirabique. Donc j'ai sauté dans un taxi, je me suis rendue dans le dispensaire qu'on m'avait conseillé. Et donc là, effectivement, dispensaire assez précaire, un jeune interne, je pense, un peu plus, enfin, plus jeune que moi, voilà, qui m'a expliqué dans un mauvais anglais qu'il fallait que je me fasse vacciner immédiatement et que je recevrais 5 injections.
5 injections, c'est quand même beaucoup.
Ouais. Oui. Alors la première, quand on n'est pas vacciné, quand on ne s'est pas fait vacciner au préalable, doit se faire dans les, il me semble que c'était dans les 12 ou 24 heures suivant la morsure. Puis on en refait une 48 heures plus tard, puis 72 heures plus tard, et ainsi de suite jusqu'à 5 vaccinations. Voilà, donc du coup j'ai fait mes deux premières injections dans ce dispensaire, puis après avoir m'être renseignée sur le sujet, etc., appris que la rage était une maladie incurable et qu'à partir du moment où on développait les symptômes, a priori on en mourait. Je me suis rendue à Phnom Penh, donc à la capitale, pour me rendre au centre de vaccination de l'Institut Pasteur. C'est le seul Institut Pasteur au Cambodge, en tout cas à l'époque c'était le cas. Et là, on m'a expliqué que, c'est là où ça a commencé à devenir un petit peu angoissant, parce qu'on m'a expliqué que le dispensaire dans lequel j'avais fait mes deux premiers vaccins n'était pas homologué. Et que il y avait donc un risque que les vaccins reçus soient des risques des vaccins qui seraient des faux, qui arrivent de Chine, et qu'il y en avait beaucoup en circulation.
Les faux médicaments, les faux vaccins, c'est effectivement un énorme problème de santé publique en Afrique et en Asie. Donc effectivement, là, vous n'avez pas dû être rassuré.
Donc là, j'ai pas été rassurée. Donc ils m'ont fait la troisième, mais c'est quelque part, c'était trop tard. Il n'y avait plus grand chose à faire. À pas croiser les doigts pour que les vaccins soient des vrais et ou que le chien qui m'est mordu ne soit pas porteur de la rage. Mais donc je suis restée dans l'incertitude jusqu'à on m'a expliqué que les symptômes pouvaient se déclarer jusqu'à un an après la morsure au maximum. Voilà, et donc du coup je suis restée dans l'incertitude jusqu'à un an après la morsure finalement.
Un an
donc,
d'inquiétude.
Finalement, ça s'est bien passé puisque je n'ai rien eu et je vais très bien.
Vous avez eu la frayeur de votre vie. Merci Jeanne, on va redonner la parole au professeur Christophe Rapp. Comment expliquez-vous, professeur, quand on entend ce témoignage, que le vaccin contre la rage ne soit pas obligatoire finalement ?
Alors, il n'y a pas de... Le problème de la vaccination, c'est que les vaccins obligatoires, il n'y a que la fièvre jaune et la méningite à méningocoque pour le pèlerinage de la Mecque. Les autres vaccins sont recommandés. Hein. La rage est une maladie qui est négligée. Hein. On a beaucoup de problèmes avec les touristes qui vont en Afrique et surtout en Asie du Sud-Est où il y a pas mal de rage, notamment avec les morsures de chiens, de chats et surtout les singes. Hein. Beaucoup d'expositions aux singes qui peuvent être porteurs de la rage. Donc c'est un vrai sujet et on recommande aux gens de faire ce vaccin, bien sûr, avant le départ, parce que sinon ils s'exposent à des protocoles compliqués, à de la contrefaçon. Et c'est un des vaccins que l'on recommande, notamment chez les enfants dès l'âge de la marche, hein, parce que les enfants ne vont pas rapporter une griffure ou un léchage, etc. C'est la seule maladie infectieuse vraiment mortelle, hein, la rage. Donc le vaccin est très intéressant, mais il est un peu négligé. Et en France, il faut bien dire qu'il vient se rajouter à la facture des gens. Ces vaccins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il commence à y avoir des prises en charge de mutuelles. Mais en tous les cas, c'est un risque qui doit être évoqué systématiquement en consultation. Et il faut rappeler aux touristes d'éviter les animaux. Hein.
Nous avons perdu le professeur Rapp. Alors, Jeanne, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Bon, écoutez, on a perdu le professeur Rapp. Donc, oui. Vous, ensuite, vous avez terminé votre périple à Rangoon, la capitale de la Birmanie, pour un dernier vaccin, je crois, c'est ça ?
L'avant-dernier vaccin. Donc, j'ai fait le troisième vaccin à Phnom Penh. De là, j'avais un billet qui était déjà pris pour effectivement me rendre au Myanmar. À Rangoon et à l'époque j'ai pas trouvé d'informations sur internet ou que ce soit pour savoir s'il y avait un centre de vaccination là-bas. Donc j'ai attendu d'être sur place pour me renseigner. Il n'y avait à l'époque, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas donc de centre de vaccination. À part un hôpital, en tout cas conseillé par l'ambassade française, qui est un hôpital privé américain, me semble-t-il, dans lequel je me suis rendue donc, pour avoir les informations, pour savoir si je pouvais effectuer ma quatrième injection là-bas. Et je suis tombée sur un jeune médecin qui venait d'être muté des États-Unis et qui est arrivé 4 jours plus tôt et qui m'expliquait qu'il ne connaissait absolument pas les protocoles des vaccinations antirabiques, puisqu'il arrivait des États-Unis, et que, voilà, qu'il ne pouvait pas vraiment me renseigner. J'ai donc décidé d'écourter mon séjour et de rentrer cette fois en Thaïlande, à Bangkok, où là, je savais qu'il y avait un institut Pasteur et tous les vaccins, etc., qu'il fallait, et que je serais prise en charge correctement. Et donc, voilà, je suis rentrée faire mes deux derniers, donc le quatrième et le cinquième vaccin, à Bangkok.
Est-ce que c'était pour un problème de coût que vous n'avez pas fait le vaccin anti-rage avant de partir ou c'était pour quelle raison ?
Oui, alors comme je disais, j'étais étudiante, enfin je venais terminer mes études, je suis partie juste à la fin de mes études, donc effectivement...
Petit budget, on économise...
Voilà, le petit budget, je partais pour longtemps, je suis partie 9 mois.
Ah oui.
Donc j'avais économisé de l'argent, enfin tout était un peu calculé, et puis, mais je m'étais rendue à l'Institut Pasteur à Paris, avant de partir, pour faire les vaccins obligatoires, et j'avais posé la question, et on m'avait expliqué que si je n'allais pas dans des zones reculées, ça n'était pas une priorité. Et comme ça coûtait cher, voilà, j'ai estimé que ça n'était pas nécessaire.
Et du coup, vous avez vécu ces mésaventures. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci infiniment, Jeanne. On a retrouvé, je crois, le docteur Rapp, professeur Rapp. Vous êtes avec nous toujours ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, on parlait de la cherté des vaccins. Vous disiez que certaines mutuelles commençaient à les en rembourser. Ce serait quand même l'idéal d'avoir une vaccination gratuite pour tous.
Ah oui, mais en fait, la vaccination des voyageurs n'est pas prise en compte par la sécurité sociale. Seul le calendrier vaccinal recommandé par l'État est pris en charge par la sécurité sociale. C'est vrai dans tous les pays. Hein, et il y a des pays où les États-Unis, par exemple, les vaccins sont 5 à 10 fois plus chers qu'en Europe. Les gens sont pas forcément, les voyageurs sont pas forcément bien vaccinés parce que ça rajoute un coût important, bien sûr, au déplacement des voyageurs, hein. C'est un sujet compliqué.
C'est un sujet fondamental et on pense aux familles, aux nombreuses familles avec enfants. Quand il y a des choix à faire, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur ?
Voilà.
Privilégier les enfants ?
bah souvent, vous savez, les familles de migrants vont privilégier les enfants et ne pas se vacciner. En tous les cas, nous, notre rôle, c'est de conseiller au mieux les gens et d'essayer de prioriser les vaccins, c'est-à-dire de faire les vaccins les plus utiles, d'utiliser les médicaments les plus utiles et les moins coûteux, de façon à maximiser la prévention. Donc ça, c'est vraiment une habitude dans les centres de vaccination en France, hein, d'aider le voyageur à se protéger au mieux et au moindre coût, mais c'est pas si facile que ça à réaliser dans la vraie vie.
Et alors surtout, vous conseillez d'aller dans les centres agréés, que ce soit Pasteur ou Air France, parce que les généralistes n'ont pas toujours cette notion, les médecins généralistes, certains peuvent être clairement anti-vaccination et ne préconisent pas la vaccination avant un départ.
Alors, bon, c'est une minorité. Hein. Les études montrent que les voyageurs vont en priorité chez leur médecin de famille qui a leur dossier médical et qui les connaît bien. Et donc là, il n'y a pas de réserve avec ça. Les centres de vaccination internationaux, les gens y vont parce que la fièvre jaune est disponible uniquement dans ces centres. Donc, quand il n'y a pas de fièvre jaune, les gens vont très peu dans les centres spécialisés. Mais on peut leur recommander d'y aller quand ils font des parcours, quand ils vont dans des destinations complexes avec des risques nombreux ou quand ils ont un terrain à risque, sujet âgé, immunodéprimé, diabétique, etc. Là, il y a une plus-value parce que sinon, les médecins généralistes font un excellent travail sur la prévention et le document que nous faisons chaque année au Haut Conseil de la Santé publique, le BEH Voyageurs, qui est sorti récemment en mai, est à destination de nos collègues et ils ont des guidelines très actualisés et donc il y a une bonne prise en charge. Mais il y a une plus-value à aller dans un centre expert. Hein, il y a environ 150 centres de vaccination sur le territoire français métropolitain. La plus-value, c'est l'explication du voyage et surtout le conseil aux voyageurs par rapport notamment au paludisme, où là, le médecin généraliste peut être moins habitué puisque les maladies tropicales sont rares en France et donc l'expertise est plus complexe. Mais sur la vaccination, ça fonctionne bien.
Alors, le paludisme, on va y revenir évidemment, mais on sait que certains en Europe refusent d'être vaccinés, hein, sont clairement contre la vaccination. Est-ce que ça peut poser certains problèmes ça, lorsqu'on voyage? Et je pense à des maladies comme la rougeole ou des choses comme ça.
Alors concernant la vaccination, la population générale effectivement a une certaine réticence pour certains vaccins, l'hépatite B, la rougeole, mais les chiffres des études montrent que c'est quand même assez minoritaire. Hein. Il y a une défiance à la vaccination, on en entend beaucoup parler dans les médias, mais le taux de refus dans les consultations spécialisées reste quand même vraiment minoritaire. Hein. Par contre, effectivement, il y a des maladies qui ne font pas peur aux gens, l'hépatite B, la rougeole, et il faut sensibiliser les voyageurs. Et la consultation en centre spécialisé commence toujours par la réévaluation du carnet vaccinal. Hein. Et avant de partir en voyage, il faut déjà être à jour du DT polio, coqueluche, etc., de la rougeole, de vérifier l'hépatite B. C'est le début de la consultation. Et ensuite, on va évaluer les risques du voyageur et proposer des vaccins plus spécifiques par rapport à la destination.
Alors, la vaccination, c'est une chose, mais certains vaccins, comme celui pour la fièvre typhoïde, n'ont une protection que de 50 à 65%. Il faut donc être précautionneux et se laver les mains. Avoir les gestes hygiéniques et les gestes de propreté évident, c'est ça?
Alors ça, c'est le deuxième volet. Hein. Il faut bien rappeler que les maladies du voyageur, c'est prioritairement de la diarrhée. Un voyageur sur deux fera de la diarrhée. Ensuite, c'est des infections respiratoires, des problèmes de peau et de la fièvre. Et au sein de la fièvre, le paludisme. Ça, c'est les grandes causes de maladies chez le voyageur. La diarrhée, donc, c'est très fréquent. C'est rarement très grave chez les voyageurs, mais c'est empêchant. Ça peut être grave chez les enfants avec des tableaux de déshydratation. Donc, c'est une des priorités de la consultation de rappeler les mesures d'hygiène. C'est le lavage des mains avant les repas, avant toute manipulation d'aliments ou après passage aux toilettes. C'est préférer des plats chauds, éviter les buffets froids ou tièdes quand on mange dans la rue, notamment les petits vendeurs de rue, et ne consommer que de l'eau en bouteille capsulée. Ou à défaut, bien sûr, désinfecter l'eau. Il y a des pastilles maintenant très bien qu'on peut mettre dans des bouteilles d'eau ou dans des gourdes quand on fait du trekking. Donc ça, ce sont des mesures très importantes pour éviter de contracter une diarrhée ou certaines fièvres comme la typhoïde, qui sont des maladies liées à la transmission de bactéries par l'eau, les aliments ou les mains sales.
Mais alors c'est quand même très paradoxal, professeur, parce que le voyage c'est la découverte, la découverte d'une gastronomie, d'autres habitudes culinaires, et en se privant de ces petits plats que l'on découvre, on a l'impression de pas vraiment découvrir le pays. Du coup, c'est problématique pour les voyageurs.
Ben on est d'accord parce que ça, c'est des recommandations théoriques des médecins et dans la vraie vie. c'est assez difficile.
Lutter contre la curiosité, c'est difficile.
Voilà, c'est difficile. Mais il y a quelques grands principes de consommer des aliments quand même bien cuits, d'éviter des choses qui ont été à la chaleur, sans chaîne du froid, etc. Il y a une logique qu'on connaît bien en Europe parce que nous, on a une restauration collective qui est très surveillée. Il y a une logique, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout éviter. Le voyage, c'est des rencontres, c'est la découverte d'autres cultures. Mais il faut trouver un juste équilibre et il faut vraiment bien se laver les mains. On peut, quand il n'y a pas d'eau et de savon, utiliser le gel hydroalcoolique là, qui est
de nouveau à la mode avec le coronavirus. On en a tous à portée de main maintenant.
Voilà. Mais c'est vrai que il faut faire attention à ces règles. Et encore une fois, ces règles sont d'autant plus importantes que vous êtes un sujet à risque. Il y a beaucoup de voyageurs seniors, il y a beaucoup de voyageurs maintenant qui sont immunodéprimés. Ils sont d'autant plus concernés par ces mesures d'hygiène. C'est moins vrai si vous êtes jeune et en très très bonne santé.
Bien sûr. On va accueillir Missa qui nous appelle de Madagascar. Bonjour Missa.
Bonjour.
Alors vous voyagez beaucoup hein, sur la grande île de Madagascar et vous avez une expérience un peu éprouvante avec une diarrhée justement. On en parlait tout à l'heure.
Oui, j'avais une diarrhée. Non, ce que j'aimerais savoir, c'est que pendant mon voyage...
Oui, Missa.
Oui.
Oui, nous vous écoutons.
Et pendant mon voyage, durant le voyage, j'avais une bouteille
d'eau.
Thermos. Oui, plein d'eau. Mais j'ai bu la moitié de l'eau et la bouteille était fortement secouée.
Mais c'était une bouteille d'eau minérale ou une bouteille d'eau du robinet?
Une bouteille d'eau minérale.
D'accord. Et donc
la bouteille était fortement secouée et lorsque je l'ai ouvert, il y avait du gaz qui en sortait.
Ah, c'était de l'eau gazeuse alors?
Non, c'était de l'eau minérale.
D'accord. Donc de l'eau minérale.
Et j'aimerais savoir si c'est la diarrhée que j'ai eue, parce qu'il y avait beaucoup de gaz dans mon ventre. Est-ce que c'était à cause du gaz qui en sortait de la bouteille ou c'était à cause d'autre chose?
Ah ben écoutez, le professeur Rab va vous répondre tout de suite. Enfin, je ne sais pas si on peut répondre quelque chose. Professeur Rab, que peut-on dire à Missa?
Alors en fait, les diarrhées, elles sont plus souvent liées finalement à des aliments mal cuits, mal conservés qu'à de l'eau. Mais l'eau en bouteille, effectivement, avec la chaleur... il peut y avoir un développement de bactéries et effectivement secondairement une diarrhée bactérienne. Donc il ne faut pas conserver de bouteilles d'eau, ce d'autant que à Madagascar ou en Afrique, il peut y avoir de l'eau qui a été reconditionnée dans des bouteilles capsulées, etc. On peut se faire piéger. Il faut se méfier de...
Toujours vérifier que le bouchon, quand on le...
A été capsulé,
Et qu'on entend le petit bruit.
Devant soi. Voilà, c'est ça. Et tout transport d'eau dans des conditions de haute température, dans des gourdes, dans des choses comme ça, est quelque chose de potentiellement à risque, puisqu'il peut y avoir une prolifération des bactéries qui aiment la chaleur. Et donc les conseils qu'on peut donner aux gens qui veulent vraiment transporter de l'eau dans des jerrycans ou dans de l'eau, c'est d'utiliser un système de faire bouillir l'eau, hein, l'ébullition est très efficace, ou alors de désinfecter avec des produits à base de chlorure de sodium. Hein, ou
l'aquatable et les pastilles désinfectantes.
C'est par exemple l'aquatable, c'est la règle, c'est une pastille d'aquatable pour un litre d'eau, on laisse reposer une heure, c'est très efficace dans une gourde.
Professeur Rapp, une question par rapport à ça. Faut-il mettre de l'aquatable, donc ces pastilles désinfectantes, dans l'eau pour se laver dans des pays où des maladies comme le choléra sont endémiques? Pour lutter contre le choléra, est-ce que l'aquatable est efficace lorsqu'on se lave?
Ah bah oui, donc si on a une eau désinfectée, mais en fait c'est l'eau de Javel. Nous en France, hein, les réseaux d'eau, en fait on met une certaine... d'eau de Javel et on a un système de contrôle de la chloration de l'eau. Donc la chloration de l'eau est quelque chose de très efficace. Donc l'aquataps est une mesure, mais c'est une mesure quand on est en situation d'isolement ou de trekking. Effectivement, en épidémie de choléra, c'est l'eau en bouteille. Mais après, pour se laver, on n'est pas obligé d'avoir une eau pure. Voilà. Par contre, il ne faut pas boire d'eau du robinet dans des pays où circule le choléra. Mais le choléra, c'est souvent des épidémies assez circonscrites. C'est rarement à l'échelle de tout un pays.
Eh bien, écoutez, merci, professeur Rapp. Et on remercie également Missa, qui nous appelait de Madagascar.
Priorité Santé sur RFI.
Et oui, vous écoutez Priorité Santé sur RFI. À l'approche des vacances et pour certains des voyages, nous parlons de la prévention des risques sanitaires avec notre invité, le professeur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Neuilly et président de l'Association de la médecine du voyage. Alors après, le chapitre vaccination, ouvrons un autre chapitre très important pour nos auditeurs. Professeur Rapp, c'est la prévention du paludisme pour les voyageurs. Sur quoi repose cette prévention justement ?
Alors, la prévention du paludisme repose sur deux grands piliers. La première ligne de défense du paludisme, c'est d'éviter d'être piqué par les moustiques. Et c'est donc le port de vêtements couvrants. Hein, c'est ce qu'on appelle la protection mécanique pour éviter la piqûre de moustiques, les moustiquaires imprégnés et les répulsifs. Hein, ces méthodes-là ont montré leur efficacité. Le deuxième volet, c'est si le risque est plus élevé, on va utiliser en mesures complémentaires et synergiques une chimioprophylaxie contre le paludisme, c'est-à-dire un médicament pour éviter, si on a été piqué, de contracter la maladie. Donc c'est l'un et l'autre. Mais la première ligne de défense, c'est vraiment éviter d'être piqué par le moustique. Ça prévient également des piqûres d'Aedes pour la dengue et le Zika ou le chikungunya, et ça prévient également des piqûres de tique. Donc là, c'est vraiment le premier message important.
Mais est-ce qu'il faut prendre systématiquement un traitement type Malarone, sachant que c'est un traitement assez coûteux et que lorsque l'on passe un mois ou voire plus dans un pays avec la famille, les enfants, pareil, ça peut revenir très cher. Donc est-ce que c'est plus pour ceux qui vont en brousse, quand on est en ville, on peut s'en passer ou pas ?
C'est la notion de risque en fait, hein. C'est la notion de risque et puis de terrain. Si vous avez un mauvais terrain, si vous êtes âgé, vous allez faire un paludisme qui peut vous emporter, il faut faire attention. Et ensuite, c'est l'exposition aux moustiques, c'est le risque. Donc on a défini ces dernières années deux grands profils de voyageurs, hein, quelqu'un qui va faire un séjour de courte durée, moins d'un mois, qui va majoritairement être en zone urbaine ou sur des sites touristiques classiques avec des nuitées dans des bonnes conditions à l'hôtel, il n'est pas obligé de prendre une chimioprophylaxie. A contrario, un routard, un militaire, un humanitaire, quelqu'un qui va faire un séjour en Afrique, en zone rurale, les piqûres de la rafale sont plus fréquentes, il est beaucoup plus exposé au risque de paludisme, et là, on va lui proposer une prophylaxie. Donc c'est absolument pas systématique, c'est vraiment une mesure complémentaire de la prévention antivectorielle.
D'accord. Professeur, on a du mal avec la liaison téléphonique. Hein. J'espère que restez dans un endroit où ça capte bien, parce que là, on était en train de vous perdre. Faut-il prendre un traitement, justement, lorsque l'on voyage en Asie, où on sait qu'il y a une autre forme de paludisme qu'en Afrique ?
Alors en Asie, hein, l'incidence du paludisme, elle est entre 100 à 1000 fois inférieure à celle d'Afrique, et on précise exceptionnellement en Asie, en dehors de la jungle birmane ou de zones très très particulières. La plupart des séjours touristiques sont justement avec des nuitées dans les hôtels, etc. Et donc les grands périples touristiques classiques ne justifient pas de prophylaxie. Hein. Le vrai message, c'est que la chimioprophylaxie est intéressante, hein, elle est souvent complémentaire pour l'Afrique subsaharienne. Elle est de moins en moins utile en Asie ou en Amérique du Sud, où le bénéfice devient inférieur au risque d'effets indésirables des molécules qui ont quelques effets indésirables digestifs ou psychiatriques pour certaines molécules.
Professeur, nos auditeurs nous envoient des notes vocales. Je vous soumets la note vocale de Pascal, qui nous a donc envoyé un petit message du Burkina.
Bonjour Igor, je m'appelle Pascal, je vous appelle de Ouagadougou. J'ai 37 ans. Et mon travail m'amène à voyager énormément. Et j'ai des difficultés, effectivement, quand je voyage en avion. J'ai des problèmes j'ai des maux d'oreille. Ça fait extrêmement mal. Mais on m'a conseillé de mâcher du chewing-gum. C'est vrai que ça fait moins mal quand je mâche du chewing-gum, mais s'il y a une meilleure solution, je suis preneuse. Également, j'ai des problèmes de constipation quand je voyage. Alors, quand je dois faire de longs séjours, c'est un véritable calvaire. Parce que, imaginez, une semaine, 10 jours avec des difficultés pour aller à la selle, c'est vraiment difficile. Donc, toute solution qui pourrait m'aider à mieux vivre mes voyages, mes déplacements serait la bienvenue. Merci.
Alors, professeur Rapp, qu'est-ce qu'on peut dire à Pascal qui nous écoute actuellement?
Oui. Alors, donc, le premier problème, là, la sensation d'oreille bouchée au moment de la décompression au décollage, c'est un classique dans les avions, effectivement. On donne des bonbons, on fait mâcher du chewing-gum. Il existe maintenant des petits dispositifs d'oreilles qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont des petits bouchons d'oreilles en plastique qui permettent un peu de réduire cet effet de sensation désagréable au moment de la, la décompression. C'est une méthode intéressante pour prévenir ces troubles. Ces troubles, ils surviennent d'autant plus qu'on est enrhumé, qu'on a déjà un peu le nez bouché, c'est évident. Deuxième problème, la constipation chez le voyageur est quelque chose de classique, puisqu'on va changer d'alimentation. Et là, effectivement, les recommandations, c'est surtout de bien s'hydrater très souvent en voyage, en avion et ailleurs. On oublie de s'hydrater parce qu'on est très occupé, on fait plein de choses. Et donc, pour lutter contre la constipation, il y a deux choses, c'est l'hydratation et l'exercice physique. C'est les deux choses qui permettent de lutter contre la constipation qui est fréquente en voyage.
Professeur Rapp, l'année dernière, vous avez introduit dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire un chapitre relatif aux maladies d'importation, afin de prévenir le risque de dissémination de ces maladies infectieuses. Quelles sont ces maladies d'importation les plus fréquentes? Celles dont on doit se méfier?
Alors, les maladies d'importation les plus fréquentes, quand on ne parle pas du paludisme, ça va être effectivement la dengue, le chikungunya, le Zika, qui sont liés à des piqûres d'Aedes, le moustique tigré dont on parle beaucoup. Là, c'est vrai que dans les pays d'Europe et en France, on se méfie de l'importation de ce type d'agents pathogènes parce qu'on a au sud de la France, et maintenant qui remonte même sur Paris, des anopheles qui pourraient être responsables d'épidémies, hein, de clusters, d'arboviroses. Donc on se méfie de ce genre de choses. Après, on surveille beaucoup, bien sûr, les fièvres hémorragiques virales, dont le risque d'importation est faible, mais qui ont des conséquences collectives. On se méfie toujours, bien sûr, des coronavirus qui circulent au Moyen-Orient, de type MERS coronavirus, qui donnent des tableaux respiratoires potentiellement graves chez les gens qui reviennent d'Arabie Saoudite. Donc c'est pour ça qu'on a introduit un chapitre sur ces pathologies d'importation. Mais il faut bien dire que parmi les pathologies d'importation les plus fréquentes en France, c'est plutôt le paludisme, hein, 5000. Plus de 5-6 000 cas par an en moyenne chaque année, 90% quasiment chez des migrants. Et puis les arboviroses, la dengue et certaines années, le Zika ou le chikungunya qui sont les menaces les plus classiques. Les autres maladies sont quand même des situations épidémiques un peu particulières avec un risque assez faible.
Priorité santé sur RFI.
C'est une affiche qui fait froid dans le dos. Dans un aéroport, une petite fille de dos regarde un avion décoller. « Tu pensais partir en vacances ?» dit le slogan qui nous rappelle une triste réalité, car la jeune fille n'a pas vu le couteau en sang juste à côté. Pendaï Sidibé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'association Excision Parlons-en, une association qui lutte contre les mutilations génitales féminines. Est-ce que les cas d'excision de jeunes filles françaises sont fréquents lors des vacances dans le pays d'origine de leurs parents?
Oui, tout à fait. Ils sont assez fréquents. Il faut savoir que les filles excisées se font exciser généralement françaises, hein, se font exciser généralement quand elles partent en vacances pour voir leur famille. Donc c'est principalement des adolescentes, ça commence très tôt, hein, ça commence dès 5 ans jusqu'à 15 ans à peu près.
Mais ça c'est très jeune fille, hein. Et comment expliquez-vous que ça perdure encore, malgré les sensibilisations qui sont faites ici en France notamment?
Oui, c'est vrai. Il faut savoir que l'excision est une tradition. Hein. Tous les continents sont concernés, sauf l'Antarctique. Les origines ne sont pas très claires, mais c'est vrai qu'il y a une norme sociale qui est assez importante. Même si dans les pays européens, pas mal de personnes vivent dans les pays et sont très bien, la tradition reste quand même un point important. Donc on s'est rendu compte aussi que même si aujourd'hui les parents ne veulent plus forcément exciser leurs enfants, parce qu'ils ont conscience des risques, ils ont conscience du danger que ça représente pour leurs enfants, d'autres personnes, un proche de la famille, un voisin, peut perpétuer cet acte.
Ah oui, c'est ça qui est dramatique. Alors que la France a introduit les mutilations sexuelles féminines dans le code pénal, hein, les considérant comme un crime jugé en cour d'assises et passible d'emprisonnement. Et en 2006, une loi a permis de réprimer les excisions commises à l'étranger à l'encontre d'une victime résidant en France. Malgré cela, il est toujours difficile de lutter contre ces excisions?
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez précisé, alors au début des années 80, l'excision a été inscrite dans le code pénal, ce qui était quand même une vraie victoire. Il faut savoir que l'excision, c'est une triple violation des droits. Droits humains, droits des femmes et droits à la santé. La France fait partie d'un des pays précurseurs sur la pénalisation, en Europe avec notamment la Belgique. Et c'est vrai qu'il y a d'énormes choses qui ont été faites, des avancées législatives, pénales et des avancées chirurgicales, sont quand même à prendre en compte.
Alors, quelles sont les conséquences de l'excision pour ces jeunes filles? Parce qu'elles sont nombreuses, hein, malheureusement. Il y a les conséquences physiques, évidemment, mais pas que.
Exactement. Alors, souvent, il faut savoir que l'excision est pratiquée dans des conditions d'hygiène assez précaires et à l'origine d'infections multiples, vulvaires, urinaires, gynécologiques, menant parfois à la stérilité et à la mort. Donc, il y a les conséquences physiques immédiates. Donc, l'excision, elle entraîne une douleur intense, des saignements, et peut parfois entraîner des hémorragies, car la vulve et les lèvres, ainsi que le clitoris, sont des parties du corps très vascularisées et énervées. Donc, en effet, tout au long de la vie de cette femme, elle va avoir des conséquences assez dramatiques, une non-cicatrisation, des formations d'abcès, de kystes, elle va être plus assujettie aux infections urinaires. Il faut savoir qu'il y a aussi des conséquences psychologiques. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très important. L'excision se fait parfois par surprise, par la force, par les membres de la famille, et c'est extrêmement violent.
Bah, c'est traumatisant, on imagine.
Exactement. La douleur et le choc laissent de nombreuses petites filles adolescentes traumatisées. Certaines séquelles sont à vie. Hein. Donc même si l'acte a été fait dans la plus tendre enfance et que la personne n'a pas forcément de souvenirs, il y a ce qu'on appelle la mémoire traumatique qui peut se réactiver à tout moment.
Professeur Rapp, juste une question. Le fait que ces jeunes filles qui vivent en France, donc dans un contexte sanitaire différent, est-ce que ça c'est un facteur aggravant quand elles rentrent au pays pour se faire, enfin au pays de leurs parents, pardon, pour être excisées? Est-ce que ça c'est un facteur aggravant?
Enfin, c'est surtout un problème de culture familiale. Et nous, dans les centres de vaccination internationaux en France, on est très vigilants avec ça. Quand on voit arriver des parents avec une jeune fille pour un retour au Mali, etc., on est assez méfiant. On a fait de nombreuses actions de sensibilisation, on a des affiches, on a formé tous nos médecins sur comment informer la famille, dialoguer ou signaler la suspicion de retour pour mutilation sexuelle. Hein. Donc on est effectivement en France assez engagé dans cette lutte importante, mais c'est un sujet qui est compliqué.
Hein. Ah oui, professeur Rapp, la liaison se dégrade encore. Hein. Je vais vous demander de vous déplacer, s'il vous plaît. Pendaï Sidibé, donc on le disait, hein, l'excision, c'est une triple violation des droits, hein, des droits humains, des droits des femmes et des droits à la santé. Très concrètement, qui contacter en cas de menace, en cas de danger? Y a-t-il un numéro d'urgence? Comment faire?
Oui, tout à fait. Alors, il y a différents contacts, hein, le procureur de la République, les services sociaux et médicaux, le 3919, qui est un service d'accueil téléphonique anonyme et gratuit, le consulat, quand on est à l'étranger, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Sur les sites internet d'excision, parlons-en, donc Alerte Excision, il y a un chat accessible depuis ce site, qui est 100% anonyme, gratuit et sécurisé, qui a été mis en place avec l'aide d'une autre association qui est Nous Toutes. Et puis, il y a le 119, Allô Sans Danger, qui est également un numéro gratuit et qui est dédié à la prévention et à la protection des enfants adolescents en danger ou en risque de l'être.
Voilà, et un numéro ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuit, vous venez de le rappeler. Merci infiniment, Pendaï Sidibé. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association Excision Parlons-en, qui lutte contre les mutilations génitales féminines. Bonne journée à vous, Pendaï Sidibé. RFI. Et le temps passe très vite, professeur Christophe Rapp. On continue de parler prévention et la trousse de secours. Mieux vaut avoir ses propres médicaments avec tous les faux médicaments qui circulent à la fois en Afrique et en Asie. Que mettons dans sa trousse de secours? Quels sont les médicaments indispensables?
Alors oui, la priorité, c'est bien entendu pour les gens qui ont une maladie chronique, hein, de partir avec des médicaments de la pharmacopée européenne, évidemment, pour ne pas s'exposer à ne pas trouver le produit, ou deux, ne pas s'exposer à la contrefaçon. Donc ça, c'est le premier message. Les autres médicaments, ce sont les antalgiques et les antipyrétiques, hein, de type paracétamol, bien entendu, qui est recommandé.
C'est les antibiotiques?
Non, les antibiotiques ne sont pas trop recommandés maintenant, parce qu'avec le développement des bactéries résistantes, on veut pas trop que les voyageurs se promènent avec des antibiotiques. On préfère les informer de l'intérêt de consulter quand la fièvre dure plus de 48 heures, etc. On est à un recul sur les antibiotiques chez le voyageur, en dehors de situations d'isolement, un trekking particulier, militaire, à plus de 12 heures d'une structure de soins. Il y a vraiment un recul. Donc, on privilégie les médicaments de base, antalgiques, antiépyrétiques, les répulsifs pour les moustiques, les antihistaminiques pour les allergies, hein, piqûres d'insectes ou des choses comme ça qui peuvent rendre des services, les colires antiseptiques en Afrique, hein, pour les infections oculaires qui sont fréquentes avec la sécheresse et le sable, les antiseptiques cutanés comme la chlorhexidine pour bien désinfecter les plaies, parce que les dermatoses infectées, c'est une des grandes causes de consultation chez le voyageur, hein. Les gens vont mal désinfecter, ils utilisent de l'alcool qui ne fonctionne pas, il faut utiliser de la chlorhexidine, l'écran solaire, hein, beaucoup de pathologies liées au soleil, hein, chez le voyageur. En fait, on se rend compte que...
Oui, il y a énormément. Il vaut mieux prévoir sa trousse. Écoutez, je vous coupe, professeur Christophe Rapp, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Après, on a une chronique sport. Merci, en tout cas, infiniment d'avoir été avec nous, malgré le problème de liaison téléphonique. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Neuilly. Merci à vous. Et nous retrouvons à présent le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe de France de judo, pour notre chronique anti-sédentarité. Bonjour Jean-Marc Sen.
Bonjour Igor, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui.
Mais écoutez, ça va plutôt pas mal Jean-Marc, merci. Alors quel est le programme de la séance du jour Jean-Marc?
Eh bien Igor, deux exercices. D'abord l'exercice de la planche militaire et puis ensuite... Deuxièmement, ça sera le fait d'être debout et d'avoir le genou, coup de genou, l'exercice coup de genou. Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par l'exercice de la planche militaire où on va essayer de solliciter les abdominaux. Pour ça, on va être positionné en planche, c'est-à-dire face au sol, les bras tendus et les pieds au sol. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, hein. Il suffit juste d'avoir un tapis de sol et ça sera parfait. Et puis bien sûr d'être dans une tenue souple de sport. Et ça sera la même chose d'ailleurs pour le deuxième exercice.
Donc une tenue souple, les beaux jours sont de retour. Donc on peut se mettre en short avec des baskets, c'est ça?
Short, basket, avoir un sol bien sûr qui ne glisse pas. Un tapis de sol. Et en fait, on va pouvoir faire cet exercice qui est très simple. On est positionné en planche, bras tendus face au sol. Et puis ensuite, on va poser un coude, puis l'autre au sol, tout en restant, bien sûr, en position de planche. Et puis ensuite, on va remonter. On va tendre les deux coudes et on va reposer les mains au sol. Donc, en fait, on va alterner la pose des mains au sol. Puis ensuite, on va poser un coude, puis le deuxième face au sol. Et on va remonter comme ça et on va faire plusieurs exercices. Et ça, c'est formidable pour muscler les bras et les abdominaux.
On fait d'une pierre deux coups.
Absolument.
Et alors Jean-Marc, combien de fois est-ce qu'il faut reprendre cet exercice selon que l'on est débutant, moyen ou confirmé?
Bon, effectivement, il y aura trois groupes. On fera 6 répétitions pour les débutants, pour le groupe moyen 10 et 12 pour le groupe confirmé.
Très bien. Et bien écoutez Jean-Marc, on vous suit, nous sommes prêts, en tenue, sur notre tapis de sol. On vous suit, Jean-Marc.
Eh bien, parfait. On est en position de planche, bras tendus. Et c'est parti. On descend, le bras droit, puis le coude gauche au sol. Et on remonte, le coude droit, puis le coude gauche tendu. Le bras droit, puis le bras gauche, plié les coudes au sol. Puis le bras droit et le bras gauche tendu. Le coude gauche, le coude droit... Bras droit, bras gauche tendu. Coude gauche, coude droit. Bras droit, bras gauche tendu. On respire évidemment pendant tout cet exercice. Coude droit, coude gauche au sol. Bras droit, bras gauche tendu. Coude droit, coude gauche au sol. Bras droit, bras gauche tendu. Bravo pour le premier groupe. On continue pour le deuxième. Coude droit, coude gauche au sol. Bras droit, bras gauche tendu, coude droit, coude gauche au sol, bras droit, bras gauche tendu, coude droit, coude gauche au sol, bras droit, bras gauche tendu, et enfin, coude droit, coude gauche au sol, bras droit, bras gauche tendu. Bravo pour le deuxième groupe, on continue pour le troisième. Coude droit, coude gauche, bras droit, bras gauche tendu, coude droit, coude gauche, bras droit, bras gauche tendu. Bravo à tout le monde, on a terminé la première session.
Donc ça, c'était la planche militaire. Qu'est-ce qu'on fait comme deuxième exercice, Jean-Marc?
Alors, on répétera bien sûr cet exercice de la planche militaire une deuxième fois. Et pour un deuxième exercice, eh bien, cette fois-ci, on va être debout et on va croiser le genou et le coude. L'idée, c'est d'être debout, les pieds écartés à largeur d'épaule, les bras sont fléchis au niveau des coudes. Et on va soulever le genou gauche pour aller toucher le coude droit, en gardant le tronc bien droit, hein, ça c'est important. Et quand comme ça, on soulève le coude gauche pour aller toucher le coude droit, eh bien on va expirer, on va souffler. Et puis ensuite, on va revenir à la position initiale et on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va soulever le genou droit pour aller toucher le coude gauche, on va souffler en même temps et ensuite, on va revenir à la position initiale en inspirant. Donc on souffle en pliant, on inspire en dépliant. On souffle en pliant et on inspire en dépliant.
Et ça, c'est pour travailler quel muscle, Jean-Marc ?
On va travailler les membres inférieurs, donc les muscles des cuisses qui vont bien travailler, et aussi les abdominaux. Donc cette fois-ci, au lieu de travailler le haut du corps, on va travailler le bas du corps, mais également le gainage, c'est-à-dire les abdominaux.
Donc un exercice complémentaire du précédent. Eh bien écoutez, on respire un petit peu, on peut s'hydrater éventuellement, et puis on vous suit, Jean-Marc.
Allez, c'est parti pour ce deuxième exercice. Où on y va, pour le premier groupe, on est debout, les pieds à largeur d'épaule, et on soulève, allez, on soulève le genou droit sur le coude gauche, on souffle, et puis on revient en position initiale, le genou gauche sur le coude droit, on souffle, on revient en position initiale, on inspire, le genou droit sur le coude gauche, le genou gauche sur le coude droit, le genou droit sur le coude gauche, le genou gauche sur le coude droit, allez, on inspire et on souffle en même temps, droit-gauche, le genou gauche sur le coude droit, le genou droit sur le coude gauche, le genou gauche sur le coude droit, allez on continue, le genou droit sur le coude gauche, très bien, le genou gauche sur le coude droit, le genou droit sur le coude gauche, le genou gauche sur le coude droit, on continue encore, le genou droit sur le coude gauche, le genou gauche sur le coude droit, bravo pour le premier groupe, on continue pour le deuxième groupe, le genou droit sur le coude gauche, allez on continue, le genou gauche sur le coude droit, on continue, droit, gauche, et on croise à chaque fois, et on souffle, gauche, droite, et on souffle à chaque fois qu'on ramène, et on inspire en reposant le pied. On souffle en levant le genou, et on souffle en ramenant le pied. Allez, le genou droit sur le coude gauche, et le genou gauche sur le coude droit. Voilà pour le deuxième groupe. Très bien, on continue pour le troisième. Le genou droit, coude gauche, le genou gauche, coude droit. Voilà, on souffle en ramenant le pied, et on souffle, et on inspire en revenant. On souffle en ramenant le pied, on continue sur le même rythme, hein, bien sûr, et on souffle et on inspire. Dernier, le genou droit sur le coude gauche et le genou gauche sur le coude droit. Bravo pour le troisième groupe. Bravo à tout le monde. Hein, c'était un peu essoufflant et puis ça a permis de travailler également le cardio, donc l'aspect le cœur, quoi, et les poumons. Donc c'était un très bon exercice. Bravo, bravo à tout le monde.
Bravo à tout le monde. Et il faut rappeler, Jean-Marc, qu'il est important de bien travailler, faire travailler les muscles des jambes, surtout après une période d'inactivité involontaire, dirons-nous.
Absolument. Donc voilà un bel exercice. Et surtout, il faut continuer à faire ces petits exercices. C'est extrêmement bon pour la santé.
Pour les jambes, les bras et le cardio, donc. C'était donc Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe de France de judo, pour la chronique anti-sédentarité. À bientôt, Jean-Marc.
À bientôt, Igor.
C'est la fin de cette émission préparée par Assetou Samaké et Ophélie Lassen. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu et Laurent Hérault. Demain, nous parlerons de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans, la DMLA est une maladie de la rétine qui altère la vision centrale de près et de loin sans rendre totalement aveugle. On fera le point demain sur cette DMLA. Bonne journée à tous, à demain.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Et dans